que nous venons d'entendre nous indique deux lieux à partir desquels on peut vraiment comprendre la nature de sa mission. Le premier lieu, c'est sa famille. Le deuxième lieu sera sa mission ou son séjour dans le désert. Le premier lieu d'abord. Jean-Baptiste, l'Évangile nous le dit, était issu d'une famille sacerdotale. Sa mère était une descendante d'Aaron et son père un descendant d'Abia. Deux types, deux noms qui évoquent aussi deux types de sacerdoce en Israël qui avaient été institués à l'époque de Moïse et dont on rappelle les fonctions dans le livre Chronique. Lorsque Dieu avait choisi Moïse pour diriger le peuple d'Israël vers la terre promise, il lui avait donné aussi d'instituer les fonctions. Et parmi les fonctions, il avait demandé que Aaron et ses fils vont exercer ce qu'on appelle le sacerdoce, le grand prêtre, la sacerdoce du grand prêtre, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés d'offrir des sacrifices à l'autel, ceux qui égorgeaient les bêtes et qui pouvaient rentrer aussi dans le Saint des Saints une fois dans l'année. Ils avaient donc une mission importante, avec l'idée que ce sont des prêtres qui vont jouer le rôle d'intermédiaires, des médiateurs entre Dieu et son peuple. Lorsqu'ils auront à demander des choses, lorsqu'ils auront à demander pardon pour leurs péchés, pour obtenir la rémission et les grâces de Dieu, tout devrait passer par eux. Ils avaient donc une fonction importante. Et ce sacerdoce, Dieu l'a voulu éternel. Il nous dit de génération en génération, Aaron et ses fils et leurs petits-fils, à travers les siècles, vont exercer ce sacerdoce qui est utile pour que Dieu communique la grâce. Voilà le premier type de sacerdoce. L'autre type de sacerdoce, c'était les sacrifices du quotidien, où on venait offrir le produit de la terre, des prières, des offrandes ordinaires. Et ce sont les fils de Moïse lui-même, qu'on va appeler aussi les fils de Lévi. Donc, la tradition lévitique remonte à Moïse. La tradition sacerdotale, on appelle aussi les Sadoc, ça remonte à Aaron. Deux types de sacerdoce qui avaient à assumer une fonction essentielle au cœur d'Israël. Et l'importance de ces sacerdoces est telle que s'il n'y a plus de naissance dans une famille sacerdotale, on craint qu'il n'y ait plus de prêtres. Et le peuple porte cette angoisse et cette inquiétude, savoir que si nous n'avons plus de prêtres pour qu'ils intercèdent pour nous, Dieu ne pourra plus nous communiquer les grâces. Et nous comprenons donc que si Élisabeth ne peut pas faire d'enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant, ce n'est pas seulement l'angoisse d'une femme qui ne peut pas avoir la joie de donner un enfant, c'est aussi l'inquiétude de tout Israël qui peut arriver à une situation où elle n'a plus de prêtre pour intercéder. Et du coup, elle ne peut plus communiquer avec le Seigneur. Souvenez-vous, à l'époque de l'exil, on tue le dernier roi, on crève ses yeux, on prend ses enfants, on déporte les populations en Babylone. Le cri des exilés à Babylone, si je t'oublie Jérusalem, si je t'oublie Jérusalem, que ma langue colle à mon palais. Ils disent, nous n'avons plus de temple, nous n'avons plus de roi, nous n'avons plus de prophète, nous n'avons plus de terre, nous ne pouvons plus offrir des sacrifices. La souffrance des exilés est déjà comprise en quelque sorte et résumée dans cette histoire familiale de Jean-Baptiste qui montre que si une famille sacerdotale vient à manquer à ses devoirs, vient à manquer de renouvellement de génération, l'inquiétude n'est pas seulement au niveau de la famille, elle est aussi au niveau national. Et la naissance de Jean-Baptiste, quand on tient compte de cet arrière-fond historique et théologique, on comprend donc que c'est une bénédiction, c'est la réalisation de la promesse. Dieu avait voulu un sacerdoce éternel. Dieu avait voulu un sacerdoce qui dure toujours. Et voilà qu'en face de la stérilité ou du manque de génération, l'inquiétude qui avait envahi la famille et le pays de façon générale, cette inquiétude va en quelque sorte être dissipée par la réponse de Dieu. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que si Dieu nous fait une promesse de réussir dans notre vie et que parfois ce succès tarde à venir, que l'objectif tarde à être atteint, ne désespérons pas trop vite. Dieu donnera sa réponse. Dieu répondra en son temps. Il nous faut apprendre la patience, attendre que Dieu réponde au cœur de nos épreuves. Ne nous décourageons pas. Ne insultons pas Dieu. Ne nous révoltons pas. Ne quittons pas l'Église. N'abandonnons pas notre foi. N'abandonnons pas la prière sous prétexte que Dieu ne répond pas vite. Dieu répondra en son temps. Ça, c'est le premier enseignement de la vie de Jean-Baptiste. Le deuxième lieu, la deuxième information qui nous a été donnée, c'est que Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Alors, le désert, on sait ce qui s'est passé à l'époque de Jésus dans le désert. En général, on sait que les déserts étaient habités par les Esséniens. Jean-Baptiste lui-même a traversé le désert et les gens allaient le voir dans le désert. Le type d'enseignement que prêchait Jean-Baptiste, le mode de vie de Jean-Baptiste font penser effectivement que Jean-Baptiste a dû fréquenter les milieux esséniens. Or, les Esséniens, ils ont un statut très particulier. Les historiens nous disent que, en fait, les Esséniens sont une ramification de la branche pharisienne, mais une branche plutôt radicale. Quand on regarde l'histoire des grands mouvements théologiques d'Israël, il y a d'abord eu les prophètes qui assuraient une mission importante de médiateur. Les prophètes, après l'exil, se sont tus, on n'en voulait plus parce qu'on considérait qu'ils disaient une chose et le contraire, ils n'étaient plus crédibles. Les prêtres sont arrivés, ils ont pris le pouvoir. Les prêtres sont devenus une institution très forte. Mais les prêtres, eux aussi, avec le temps, ils vont perdre leur crédibilité parce qu'on va souvent leur reprocher d'être trop proches des pouvoirs. Alors leur rôle va être un peu dilué, ils vont perdre la crédibilité auprès des peuples. Et les pharisiens vont arriver. Lorsque les pharisiens arrivent, ils vont avoir beaucoup de conflits avec la classe sacerdotale. Voyez, donc la famille de Jean-Baptiste est plutôt la classe traditionnelle qui avait l'autorité. Les pharisiens vont les contester sur plusieurs points. D'abord, le premier point, ils disent que la plupart du temps, les prêtres, puisque leur fonction était d'égorger les bêtes, finalement, ils faisaient le rôle de boucher à l'église, ils n'étaient pas très intello. Du coup, on leur dit, vous ne savez pas interpréter la Torah. Or, l'heure est venue d'interpréter la Torah. Et les pharisiens, ils avaient la science, ils avaient le savoir, ils avaient une certaine autorité sur la population. Lorsque les gens avaient des querelles avec leurs voisins, lorsqu'ils avaient des questions de mariage ou des questions financières, ils n'allaient pas voir les prêtres, ils allaient voir les pharisiens. Ils avaient donc l'autorité de la science. Et puis deuxièmement, les questions morales. Les questions morales, c'est qu'on trouvait que les grands prêtres n'étaient pas forcément des gens irréprochables sur tous les points. Alors les pharisiens se donnaient, comme ils s'appelaient les purs, ils se donnaient comme règle morale d'être extrêmement rigoureux. Donc la rectitude morale a fait aussi qu'ils avaient une certaine admiration, ils trouvaient une certaine admiration auprès du peuple. Et puis l'autre question aussi, c'était la question des impôts. Les pharisiens avaient institué plusieurs impôts. Il y avait d'abord l'impôt traditionnel qui était l'impôt du temple. Quand on est juif, on doit déposer un tiers de ce qu'on gagne dans le tronc. C'est pourquoi on vous demande aussi de donner les cultes. C'est pas mal de savoir que c'est pas juste pour donner de l'argent à l'église. C'est vraiment voulu par Dieu. C'est que la vie appartient à Dieu. Et lorsque nous gagnons notre vie, nous, en reconnaissance, nous donnons une partie de ce que nous avons gagné à l'église ou à Dieu. Donc, il y avait cet impôt qui était traditionnel. L'autre impôt qui était aussi l'impôt des Romains. Alors, il fallait la payer. Mais les pharisiens avaient institué un autre impôt qui était impôt de communauté. Si vous voulez appartenir à la nouvelle communauté, il faut payer l'impôt des pharisiens. Alors ça faisait que les pharisiens étaient venus à demander aux Hébreux, aux Juifs, de ne plus payer l'impôt du temple qui était destiné aux Sadducéens. Ils avaient fini par ruiner l'institution. Si je vous raconte toute cette histoire, ces différentes étapes de l'histoire d'Israël, c'est pour montrer que Jean-Baptiste est né à une époque où le sacerdoce, l'institution sacerdotale, avait perdu sa crédibilité et était même contesté par des institutions parallèles. Cette image est aussi l'image de notre Église aujourd'hui. Le pape est contesté, les évêques sont contestés, les prêtres sont contestés. Parfois, les contestations s'inspirent, reconnaissons-le, des situations boiteuses, incestueuses de notre histoire d'Église. Lorsque nous tombons sur la vie d'un prêtre qui n'est plus fidèle à son idéal, lorsque nous commettons nos erreurs, ou parfois les chrétiens eux-mêmes, lorsque nous sommes indignes à côté de nos voisins, les gens qui nous regardent de l'extérieur, ils ne croient plus, nous décrédibilisons l'Église. Et c'est dans cette situation et dans ce contexte que Jean-Baptiste est né, où on se demandait si l'institution traditionnelle du sacerdoce n'est plus crédible aux yeux du monde, à quoi bon? Allons voir les pharisiens, allons voir ailleurs, allons voir les Esséniens. Tant d'hommes se sont retirés dans le désert pour essayer de réhabiliter les institutions d'Israël. Quel était leur désir? Leur désir était de vivre proche de Dieu, de faire respecter la loi de Dieu, de faire respecter l'idéal de la Torah. Or, on voit voir que Jean-Baptiste, il est à la fois l'homme qui est né des vieilles institutions puisque ses parents étaient prêtres, il est aussi celui qui incarne ce renouveau spirituel de toutes les communautés qui se retiraient dans le désert pour ne pas être comme les gens qui s'étaient suffisamment mouillés, qui s'étaient suffisamment salis dans les actions que les gens jugeaient indignes. Et on peut dire d'une certaine manière, là encore, Dieu a donné sa réponse. Lorsque les gens se demandaient, faut-il encore garder les institutions traditionnelles, puisque le fils Jean-Baptiste est né de ces institutions traditionnelles, c'est une réponse de Dieu que Dieu a voulu un sacerdoce. Un sacerdoce qui sera éternel. Quels que soient ses péchés, quel que soit le poids de ses institutions, quels que soient ses égarements. Frères et sœurs, nous pouvons tenir le même discours aujourd'hui. Oui, nous les prêtres, nous sommes indignes. Peut-être vous aussi, vous êtes aussi indignes aux yeux de vos voisins, aux yeux des autres religions. Nous sommes suffisamment indignes. Et nous nous posons la question, en tenant compte de cette indignité, comment faire pour montrer encore le visage crédible de l'Évangile dans notre monde ? Dieu donne la réponse dans la vie de Jean-Baptiste. Il montre que, quel que soit le péché des hommes, quels que soient les archaïsmes de nos institutions, quels que soient les égarements de nos mœurs, Dieu fait le choix de nous rechoisir comme canal de ses grâces au milieu de notre monde. Et c'est ce que Jean-Baptiste et sa famille ont fait. Nous vous avons proposé la version hébraïque des psaumes 123, 124 et 125. Quand vous serez à la maison, relisez-le. Dans cette histoire, il y a le chant de l'espérance, de l'espoir d'Israël. En gros, le chant disait « Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, qu'Israël le redise. Dieu ne nous a pas livrés à la proie des ennemis. Nous sommes rassasiés du mépris des hommes. Nous sommes rassasiés du mépris de l'entourage, des prospères, des gens qui sont autour de nous. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, les hommes nous auraient avalés. La colère de nos ennemis nous aurait broyés. Les torrents nous auraient emportés. » Ce chant montre surtout que celui qui met sa foi dans le nom du Seigneur, il est comme le mont Sion. Il tiendra jusqu'à la fin. Rien ne l'ébranlera. Pour dire que dans notre histoire de la foi, dans l'histoire de l'Église et dans notre propre histoire personnelle, tant que nous restons attachés au Seigneur, quel que soit le poids de nos infidélités, quelles que soient les agressions de l'extérieur, nous tiendrons. Et l'histoire de Jean-Baptiste nous révèle cette foi extraordinaire à la foi d'une famille, mais qui correspond aussi à la foi extraordinaire d'Israël et qui est devenue la foi du peuple de Dieu que, à travers les siècles, nous allons affronter les épreuves, les doutes, les stérilités, les chômages, les angoisses de perdre son emploi, les angoisses parfois aussi de ne pas avoir d'enfants dans les jeunes ménages et d'avoir la sensation qu'on a perdu le sens de notre vie. Eh bien, le psaume nous a dit que si vous restez attaché au Seigneur, si vous restez fidèle à la loi de Dieu, rien ne vous ébranlera. Dieu finira par donner sa réponse en son temps. Préparons nos cœurs dans cette Eucharistie à cultiver cette foi d'Israël qui nous a été transmise de génération en génération et qui arrive jusqu'à nous, en sachant que ceux qui mettent la foi, leur foi en Dieu, ils ne seront jamais déçus. Et c'est ce que nous voulons dire dans cette Eucharistie, que Seigneur, tu nous as nourris de tant de grâce, toi qui nous as toujours assistés, assiste-nous, donne-nous ta grâce. Et la première grâce, c'est de ne jamais perdre la foi. Amen.